العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب دونك إن شاء الله bienvenue si il y a de nouveau. Et une petite information, car nous sommes au début de l'enseignement concernant le fiqh, la jurisprudence des adorations. Fiqh al-ibadat. Fiqh al-ibadat. Donc, concernant la méthodologie d'enseignement à l'Institut, pour que les gens sachent, c'est que dans un premier temps, concernant le fiqh, la jurisprudence, nous sommes déjà entrés dans ce qu'on appelle la pré-enseignement, c'est-à-dire pré-entrée, l'entrée dans le fiqh. Il y a donc des choses à connaître concernant la jurisprudence avant d'entrer dans la jurisprudence elle-même, les jugements de la jurisprudence. C'est pour ça que nous vous disons, ne vous inquiétez pas, on va, inshallah ta'ala, au moment voulu, commencer à entrer dans l'ouvrage prévu où on étudiera les adorations comme la purification, la prière et tout ce qui tourne autour de cela dans un premier temps. Donc, mais pour pratiquer une bonne méthodologie d'excellence dans l'enseignement, il y a des choses dont il ne faut pas passer à côté pour avoir un enseignement complet avant d'entrer dans le fiqh. On doit parler du fiqh, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, et il y a encore d'autres choses à parler. Ça mettra le temps que ça mettra, inshallah ta'ala, mais au moins lorsqu'on prononcera on parlera de fiqh, il y aura fiqh et fiqh, c'est-à-dire qu'on sera capable de différencier les différentes choses qu'englobe le fiqh. Attention, ici on ne parle pas de usul al-fiqh, c'est-à-dire des fondements de la jurisprudence, mais ici on parle de fiqh al-ibadat, il y a une différence. C'est-à-dire fiqh, la jurisprudence dans les adorations. D'accord. Donc inshallah ta'ala, nous allons, deux petites secondes, on va commencer inshallah. Donc, je voulais vous faire partager pour commencer une faïda. Cette faïda, je devais demander au frère, c'est un frère qui est à l'initiale, c'est-à-dire à l'origine de cette faïda. Je n'ai pas eu le temps de lui demander si ça ne le dérangeait pas que je parle de cette faïda. Il n'est donc pas obligatoire et légiféré de demander la permission dans ce cas précis, mais ça fait juste partie du comportement. Donc comme j'ai oublié, je pense que le frère, il n'y aura pas de souci à mentionner cette faïda. Elle est ilmi, hein, c'est pas rien de personnel, c'est ilmi. Donc inshallah, on va mentionner cette faïda parce que par rapport à cette faïda, il y a quelque chose que vous devez connaître, que vous devez comprendre déjà, mais qui est très important de le rappeler. Afwan, très important de le rappeler. Alors, cette faïda, c'est qu'il y a un frère, il y a quelque temps, qui nous a... Bon, j'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples. Hein. J'ai pris cet exemple parce que c'est le dernier en date. C'est le dernier en date. Un frère qui nous a posé une question, qui nous a demandé, voilà, il y a un frère avec qui on discutait, ou à peu près dans ce contexte, qui nous a dit qu'il avait lu dans Bulugh al-Maram, donc apparemment en français, que les récipients et tout ce qui est pour manger, boire, etc., en or et en argent, ce n'était pas interdit dans l'absolu, puisqu'il y avait des madahib, des écoles, parmi les quatre écoles qui le permettaient, qui rendaient cela permis, c'est-à-dire de manger et boire dans des récipients en or ou argent. Donc, nous avons répondu au frère qu'il y avait dans le Bulugh al-Maram que ce n'était pas mentionné de telle manière, de cette façon-là, puisque les savants sont unanimes qu'il y a une interdiction de manger, de boire dans les plats, tout ce qui est plats, etc., en or et en argent. On appelle ça l'ina en arabe. Bid-dahab wal-firda. Et Naam, donc on lui a mentionné cela, et quelques semaines, quelques jours après, le frère est venu et m'a expliqué que dans la nouvelle version en français de Bulugh al-Maram, ils avaient rectifié cette erreur. Donc, la faïda que moi je veux vous tirer de ce petit récit. La faïda que je voudrais vous tirer, que nous aimerions tirer de ce récit. C'est que, regardez, les livres, même si ce sont des livres qui sont nobles, Bulugh al-Maram, c'est un livre noble. Zad al-Mustaqna', celui qu'on fera, c'est un livre noble. Amdat al-Ahkam, c'est un livre noble. Kitab al-Tawhid, c'est un livre noble, etc., etc., etc. Ce sont des ouvrages inestimables. Mais maintenant, le problème, il n'est pas dans ces ouvrages-là. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui font des traductions et ils peuvent commettre des erreurs. Vous avez un exemple typique ici. Que dans les livres en français, quelle que soit la taba'a, la maison d'édition, il peut y avoir des erreurs. Alors, deuxième faïda, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles on ne doit pas étudier tout seul. On a besoin d'un professeur qui va, inshallah ou ta'ala, nous diriger, nous traduire, nous faciliter le chemin. T'as même ? Parce que sinon, on est perdu. On risque de faire des erreurs, d'être induit en erreur, les mauvaises traductions, etc., etc. Voilà une des preuves, hein, parmi les preuves qu'il ne faut pas étudier tout seul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Concernant cette matière, le fiqh, donc je pense que maintenant tout le monde a compris, chaque matière a son importance. Et comme vous le savez, le fiqh, si on l'a mis parmi les trois matières où il est nécessaire de suivre les cours de fiqh, c'est parce que le fiqh, il y a des questions concernant le fiqh qu'il est obligatoire de connaître, obligatoire. c'est pas préférable ou permis, obligatoire. Hein? Ça veut dire que celui qui ne remplit pas cet obligatoire, il prendra le péché. Il prendra le péché. Wallahu a'lam. Donc, on s'était, si vous vous souvenez, on s'était arrêté dans le dernier cours. On avait mentionné des choses importantes. On avait mentionné des ambiguïtés concernant des groupes qui disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a copié la religion sur des sources antérieures. Donc, on avait répondu à ces ambiguïtés. Donc, c'est bien de connaître de quoi les détracteurs, les ignorants, mécréants, tout ce que vous voulez, ont taxé notre messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien de connaître leurs ambiguïtés. Donc, revenir au cours précédent. Et c'est bien également de connaître les répliques. Alors surtout, je vous donne un conseil, une recommandation. Ne laissez jamais un enseignant, et même moi d'ailleurs, il n'y a pas de mal à me faire le rappel, si un enseignant vous mentionne une ambiguïté sans vous mentionner sa réplique. Parce que vous allez rester combien de temps avec l'ambiguïté? Et vous n'avez pas le médicament. C'est comme s'il vous aurait donné le poison, sans faire le poison entre parenthèses. Hein. S'il donne le poison, il n'y a pas de mal après, juste après, de donner l'antidote. Il n'y a pas de mal. Ça fait partie de l'enseignement. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui vous donnent le poison et il n'y a pas l'antidote. Ils vous mordent, ils vous piquent. Et ensuite, il n'y a pas d'antidote. L'antidote, c'est tout de suite. Il ne faut pas laisser les gens partir et aller dormir avec des ambiguïtés. Les ambiguïtés, ce sont des flèches dans le cœur. Donc, c'est bien pour ça, comme vous voyez dans la méthodologie de notre enseignement ici, méthodologie de notre enseignement, de notre livre ici, les ambiguïtés ont été mentionnées, mais directement derrière, le remède, que sont les répliques, ont été mentionnés. Et si qui que ce soit parmi les élèves a une ambiguïté ou un doute ou quelque chose comme ça, il ne faut pas hésiter. On est là, Inch'Allah ta'ala, on est là pour ça. Donc, nous continuons. Deuxième sujet, nous dit-on, al-mawdou' al-thani, le deuxième sujet de notre malzama, muzakara, muqarrar. En gros, ça veut dire notre support d'étude. Donc, avant de commencer, excusez-moi, juste une petite faïda. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Inch'Allah, il n'y a aucun souci. Il y a ceux à qui je réponds instantanément. Il y a ceux à qui ça met plus de temps pour avoir des réponses. Hein. Ça demande des fois de la réflexion, etc. Il y a des questions. Lorsque c'est des questions du cours, normalement, c'est instantané. Hein. Les réponses, elles sont instantanées, comme vous avez pu le constater. Alors, peut-être qu'après l'intermédiaire à qui moi je donne pour qu'il réponde, lui aussi, il a ses petits empêchements des fois. Hein. Il a ses petits empêchements, ça peut mettre du temps. Et donc ça dans un premier temps, et dans un deuxième temps, les questions qui sont plus complexes et autres, Inch'Allah ta'ala, je ne suis pas, comment dirais-je, laxiste ou en léthargie par rapport à des questions qu'on pourrait me poser. Donc il suffit juste de patienter un petit peu, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Ahammiyat dour. Donc on nous dit ici notre prochain sujet important concernant le fiqh. On nous dit l'importance des périodes des périodes d'installation, de fondation du firq à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comment est apparu le firq, à quel moment, à partir de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son évolution. Donc on a déjà vu ça pour d'autres matières, hein, comment elles sont nées, quelle est leur source, leur masadir, les sources hein, de ces matières, quelles sont les périodes d'évolution. Donc ça c'est très important pour pouvoir comprendre certaines choses par la suite. Il faut avoir certaines notions. C'est comme un puzzle, si vous préférez. Donc on nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, la législation islamique, donc pour être plus précis, les lois, les jugements, le fiqh, a commencé avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dites-vous que, si vous vous posez la question, ou on vous pose la question, le fiqh, celui qu'on est en train d'étudier ici, le fiqh, il est né dès que le prophète, avec la venue du prophète, alayhi salatu wassalam. La première année de son envoi. Et le fiqh, il se termine, il s'arrête, le fiqh, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 11e année après l'émigration, ou de l'émigration, ou du calendrier de l'Hijri. Après ces périodes-là, la mort du prophète, alayhi salatu wa sallam, il y a l'établissement des lois, de la législation des lois. À la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, al-wahi, il s'est arrêté, il s'est coupé. Al-wahi, il s'est arrêté, il s'est coupé. Le wahi qui est considéré comme la source de la législation. On est d'accord. La source de la législation, c'est la révélation, le Qur'an et la Sunna. Cette révélation, elle s'est arrêtée, elle s'est terminée, interrompue à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez les fondements des jugements de l'islam et ces règles qui sont apparues. Tamam. Alors, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. On nous dit, les jugements, la législation, les lois concernant les différentes périodes, elles se divisent en deux périodes. Ces périodes qui sont les périodes comme les édifices, hein, les périodes de base. Il y en a deux. Deux périodes de base concernant la législation, les lois, l'apparition de la législation islamique et de ses lois. En gros, du fiqh. En termes général, du fiqh. Il y a deux périodes fondamentales, en fait, que vous devez connaître. Cette première, bon, vous allez voir, c'est simple. Hein. C'est simple. Retenez ces deux périodes. Et vous allez comprendre. Vous avez la première période, on appelle ça la période mekkoise. On est d'accord ? La première période, c'est la période mekkoise. C'est-à-dire, c'est la période qui est restée le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Cette période est de 13 années. Salatha ashara aam. Cette période est de 13 années. وقد اتجه الواحي في هذه المرحلة إلى بيان أصول الدين والدعوة والدعوة إليها. Donc cette période, elle a été dirigée, la période, toutes les 13 ans, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque pendant 13 ans. On nous dit ici que cette période, elle était concentrée sur les fondements de la religion et l'appel à ces fondements. Vous savez bien, ça veut dire quoi ? Alors, on va poser la question. Les 13 premières années ici, qui peut nous répondre sur quoi s'est concentré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Masha'Allah. Voilà, oui, j'avais compris. Hein, Masha'Allah, Ibarak. On a nos sœurs, Masha'Allah, qui nous ont répondu. Qu'Allah les récompense, le Tawhid. Alors, j'entends sonner le téléphone. Masha'Allah. Tawhid, tawhid, tawhid. Barakallahu fikoum, ikhwani. Barakallahu fikoum. Tu fais bien hein, quand les frères y répondent, parce que moi, le tchat, je l'ai en face de moi, donc directement, ça s'affiche. Je ne peux pas passer à côté. Mais le téléphone, j'ai mis juste le vibreur. Tamam. Donc, Akh Tayyib, barakallahu fikoum, jazakallahu khair. Quand je zappe les frères, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, tu me fais signe, Inch'Allah ta'ala. Donc les frères, barakallahu fikum, les sœurs, barakallahu fikum. Tamam, on continue. Donc, c'est bien que vous sachiez ça. Là, les 13 premières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque s'est concentré sur les fondements de l'islam. Alors, on va reposer une autre question. Pourquoi ? Attention, hein, je vais vous donner un indice avant de répondre. Je vais vous donner un indice. Et le talab al-ilm, il doit penser comme ça. Là, j'essaye de vous inculquer quelque chose de très important. Rappelez-vous pourquoi on apprend les définitions. Rappelez-vous pourquoi on apprend les définitions. La question, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, c'est pourquoi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a commencé par les fondements, les bases. Attendez avant de répondre. Je vous donne un indice. Rappelez-vous de la définition d'un fondement. Rappelez-vous de la définition d'un fondement et vous aurez la réponse. Pourquoi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est la base, mais ce n'est pas la réponse 100%. Alors, le frère, c'est la base sur laquelle où tout. Masha'Allah, il y a un frère, il a dit non. Il y a un frère, il a bien répondu, l'Akh Mohamed, jazakallahu khair. C'est parce que, tous hein, les frères, ils ont répondu, c'est parce que ce sont les bases. Donc tout le reste, c'est sur cela qu'il va se construire. Tout le reste, il va tenir dessus. Hein? On a dit, rappelez-vous de là. Ah, ici, il y a une sœur, mashallah, elle avait répondu. Barakallah. Désolé, je n'avais pas vu. Allah ibarak. Naham. Donc, vous voyez à quoi servent les définitions. Quand tu n'as pas une réponse, rappelle-toi de la définition. Qu'est-ce qu'un fondement ? C'est ce sur quoi tout le reste il va venir tenir. Donc pourquoi le prophète en sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé 13 années par le tawhid ? Parce que tout le reste, il va être basé dessus. C'est l'édifice, le tawhid, c'est le fondement. Et on a déjà expliqué même dans des cours que toutes les autres matières, elles découlent du tawhid. Toutes les autres matières, elles découlent du tawhid. Donc, très très important, barakallahu fiikum pour votre participation. Ça permet également à l'enseignant d'analyser l'idrak, la perception des cours précédents, comment les élèves perçoivent, l'assimilation, est-ce qu'ils assimilent correctement le niveau également. Un professeur, un enseignant digne de ce nom, il doit être, donc ça c'est pour vous, hein, les futurs prêcheurs, ceux qui donneront des cours, etc. Ce sont les savants qui disent ça, hein, dans les caractéristiques du prêcheur. Et il y a même des choses qui sont obligatoires chez le prêcheur, c'est d'être capable de prendre la température de tes élèves, de ceux qui sont en face de toi, même si ce n'est pas tes élèves. La température, comment ils fonctionnent, comment ils pensent, leur niveau, les différents niveaux, être capable de percevoir qui est plus à plus de perception, qui est... C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un peu plus difficile via les réseaux sociaux, hein. Mais on peut quand même. Mais pour cela, il y a des techniques. Tu ne pourras pas si tu poses pas de questions, tu fais pas participer les gens, etc. Ça tu pourras pas. Si tu viens, tu fais ton cours, tu parles, tu poses pas de questions, les gens n'ont pas droit à la parole, etc. Tu sauras jamais qui est qui. Tu sauras juste les noms. Abou Foulaine, un tel Foulaine, c'est tout. Naam. Donc ça, c'est une faïda pour ceux qui veulent donner des cours plus tard. Alors maintenant, je vais vous donner la parole des savants. Hein. Les savants disent, parmi les conditions du prêcheur, et il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, parmi les conditions du prêcheur, il y a le fait de connaître la situation, c'est-à-dire le hal, le profil pour être plus précis, de ceux qui sont en face de toi. Attention, le profil scientifique. Certaines fois, c'est vrai, on peut rentrer dans d'autres profils pour X raisons. Mais le profil principal, pour que vous vous disiez, c'est pas un policier, c'est pas un enquêteur. Le profil principal, c'est le profil scientifique. Le profil scientifique. Non. Parce que tu vas pas opérer. Tu ne vas pas opérer avec un élève qui, sur une échelle de 10 dans la mémorisation à 10, comme un élève qui, sur l'échelle de mémorisation à 4 ou 3, par exemple, ce qui n'est pas une tare. Ce qui n'est pas une tare. Attention, c'est juste pour donner une chaîne de degré de mensuration. Non. Voilà, c'est des petites techniques que je vous fais partager, c'est très important. Tu ne vas pas faire un cours à des enfants comme tu vas faire un cours à des adultes. Et ça, c'est valable même dans le sport. Puisque les professionnels, que ce soit dans l'ilm ou dans le sport, ils disent que les enfants n'ont pas le même temps de concentration que les adultes. Attention. Tu ne peux pas leur faire un cours d'une heure, deux heures aux enfants. Ils vont commencer à... Après, il y a enfants et enfants, ils vont commencer au bout d'un certain temps, ils vont commencer, ça y est, à courir partout. Ils n'ont pas le même temps de concentration qu'un adulte. D'ailleurs, même un adulte, il a un temps de concentration. Il y en a qui saturent au bout d'un certain moment. Il y en a qui saturent. Hein, et on est tous comme ça. Donc, il y a également des techniques pour le professeur, l'enseignant, etc., pour justement savoir quand est-ce que ça sature, comment ne pas les faire saturer, comment se comporter, quand parler et quand ne pas parler, c'est toute une psychologie. Je me demande même si les vrais prêcheurs, les savants, etc., et on ne leur donne pas un diplôme de psychologue. Sachez que les savants sont encore plus psychologues, je vous le dis, hein. Les savants sont encore plus psychologues que les psychologues. Je parle de psychologie halal. Je parle pas de psychologie qui est interdite. Il y a un genre de psychologie qui est interdite. Je parle de psychologie halal. Ça veut dire que le savant, il parle deux secondes avec toi, il connaît ton profil. Et il va se conduire avec toi en fonction de ton profil. Et moi, par la grâce d'Allah, Allah il m'a donné ce muhim. Je peux discuter un petit peu avec quelqu'un et connaître son profil. Et je remercie Allah parce que c'est une technique pour reconnaître les fatten. Il y a des gens, cette semaine, j'ai dû bloquer 2-3 personnes. deux secondes de... Je donne la chance à tout le monde. Tu as le droit de me contacter, tu as le droit de me poser des questions. Mais j'analyse comment tu te comportes, quelles sont tes questions, et si tu dépasses la limite, tu seras bloqué. Et ça, ça fait partie du droit. Cheikh Al-Usaymi, il a expliqué ça. Il a dit, l'enseignant, il a le droit, il peut même te dire, je ne veux plus que tu assistes à mes cours par rapport à un certain comportement ou un certain... Nous, on est plus ouverts. Pourquoi ? Parce que nous, on est des francophones. Et excusez-moi, ce n'est pas pour vous, les élèves de l'Institut. C'est pas pour vous, j'ai rien à dire, jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien à dire. Mais même en règle générale, et subhanallah, inshallah, Allah musta'an. Et bien sûr qu'on les excuse. Et subhanallah, a'udhu billahi minash shaitan rajim, na'am, que ce soit dans la francophonie, en France ou autre, ou que ce soit même à l'institut de Cheikh Mokbel, wallahi, on a vu des cas, vous ne pouvez même pas vous les imaginer. Vous direz, c'est pas possible, pas dans l'institut d'un savant. Donc, j'ai vu tellement de gens hors normes. Alors, pour les nouveaux, c'est-à-dire les nouveaux qui sont jeunes dans l'âge, entre 20 et 30 ans, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais je pense qu'il y a des frères qui sont de ma génération ou d'autres. Vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on dit, on parle du service militaire réformé P4, réformé P5. Parce que je crois qu'il n'y a plus le service militaire. Nous, à l'époque, c'était des termes comme ça. Il y avait des degrés de réforme par rapport à ton profil psychologique. Je vous assure que j'ai rencontré des gens, des frères, P10. P10. Wallahi, même à l'institut du Cheikh, un frère qui voulait, qui avait acheté une arme et qui voulait tirer sur des étudiants comme ça. Un autre qui se cachait le soir pendant que les frères allaient étudier au cours du Cheikh. Donc les sœurs, il y a des sœurs, elles restent à la maison. Elles ne viennent pas toutes au cours. Elle reste à la maison et il y avait un frère, il allait par la fenêtre regarder les sœurs. Des cas incroyables. Des cas, vous ne pouvez même pas vous les imaginer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à force, 25 ans d'expérience, ce n'est pas à tous les coups. Hein. On n'a pas dit ça, mais la plupart du temps, on arrive à profiler, si vous préférez, dans le sens légiféré du terme, profiler les gens. 5 minutes avec quelqu'un, ça y est, on sait si tu cherches la fitna, si tu tournes autour du pot, tu cherches des histoires, tu veux nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, tu vas aller propager des paroles, tu vas aller dire ce qu'on n'a pas dit, tu vas faire des histoires, voilà. Le prêcheur, donc je reviens au sujet, pourquoi on raconte ça, parce que vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir dans le fiqh ? J'étais en train de vous expliquer concernant le prêcheur ou celui qui va donner des cours, il doit être fort dans ces choses-là. Il doit être capable dans ces choses-là, parce que sinon tu ne vas plus t'en sortir. Tu vas ouvrir le micro à tout le monde, tu vas répondre à tout le monde et tu vas te retrouver dans des histoires. Il y a des gens qui cherchent les histoires. Ils ne méritent même pas que vous leur répondiez. Ils ne méritent même pas. Laisse-les se fatiguer, puisque son profil est clair, subhanallah. Donc ça, c'est pour vous, hein, ceux qui donneront des cours. Soyez vigilants à savoir reconnaître les profils. Les profils des gens, c'est très important. Et ça, c'est Allah qui le donne. Ça, c'est une sorte de clairvoyance. Wallahu a'lam. Donc, Allah musta'an, on nous dit qu'il y a des personnes qui veulent entrer. Qaddanallah ma shaa fa'al, ils n'arrivent pas à entrer. Wallah, ici, j'aurais la solution. Ça aurait été avec plaisir. Tamam. Heureusement que les cours sont enregistrés. Donc, on en était où ? La première période, on a dit, la première période, retenez bien, c'est la période de Mecca, où les fondements, les usus, l'édifice de la religion s'est formé. Et on sait que l'édifice, c'est quoi ? C'est Tawhid, Aqida, Tamam. Donc, il y avait une sœur, Jazallahu Khayran, qui nous avait poser une question qui voulait un détail, un tafsil. Alors, vous savez, moi, des fois, je connais des questions religieuses, mais pour que je donne une explication détaillée, il faut vraiment aller la chercher. Vous voyez, aller la chercher, me dire, mais il y a ça et ça, pourquoi il y a ça? Et là, je vous fais un tafsil et ça vous permet de connaître qu'il y a divergence et que, etc., etc. En gros, des fois, il faut aller chercher chez moi la faïda. J'essaye de sortir le plus de fawaïd possible, mais des fois, il faut aller la chercher, la faïda. Al-Muhim, on avait fait un petit tafsil, un petit détail concernant la différence entre le tawhid et la haqida, c'est-à-dire l'unicité et le dogme et la croyance. Alors, il y a beaucoup de savants qui disent il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le tawhid, l'unicité, et la haqida. Pardon. Et il y a d'autres savants, vous avez d'autres savants qui disent il y a une différence. Le tawhid, ça traite de tout ce qui est unicité. Tout ce qui est unicité. Seigneurie, unicité de la seigneurie, unicité dans l'adoration, unicité dans les noms et attributs. Et vous avez la haqida, le dogme, la croyance, ça traite en majeure partie, pour vous donner un aperçu, en majeure partie des six piliers de la foi. Que tu crois en Allah, en tu'mina billahi wa malaikatihi, ses anges, wa kutubi, ses livres, wa rusuli, ses messagers, wa liyam al-akhir, le jour dernier, wa al-qadri khayri wa sharri, et la prédestinée ou le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit favorable ou défavorable. Tamam? Bon ou mauvais. Donc voici une, ça parle également des sites de la fin des temps, etc. Voilà la différence entre les deux. Donc, c'est de ça que le messager alayhi salatu wassalam, à Mecca, en a parlé pendant, plutôt il a appelé à cela pendant 13 années. Vous avez la deuxième période également. La deuxième période, je pense que certains ont déjà deviné, hein, la deuxième période, c'est la période hiya muddatu iqamatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil madinati ba'da al-hijrati. Donc c'est la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de Mecca vers Médine. Il y est resté, donc vous faites le calcul, hein, 13 ans à Mecca. On a dit la dernière fois qu'il a, le prophète sallam, il a fait tarwa pendant 23 ans, donc vous faites le calcul, une petite division, ça donne, il est resté 10 ans à Médine. Il est resté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans à Médine. Wa fi hadhihi al-marhala istamarat al-inayatu. Bibayani usulid-din. Donc, cette période-là, très importante, elle a continué, concernant la propagation, le fait de s'occuper de la propagation des fondements de la religion. Ça a continué à Médine. Mais il y a eu d'autres choses. Il y a donc eu les fondements de la religion. Il y a eu l'appel à l'ordre dans le comportement, hein, les ordres concernant le comportement, les interdits, les mauvaises choses, mal à ne pas faire. Et à cette période, c'est à Médine que la révélation est descendue concernant l'établissement des lois et des jugements. C'est à Médine. En détail, attention. Allati la budda minha, donc celle dont il est nécessaire de s'occuper à l'organisation, donc les lois, les jugements qui sont nécessaires à l'organisation de la vie des musulmans. Tout ça, c'est descendu à Médine. Alors, je voudrais vous faire prêter attention à un point important. Vous savez que moi, j'attache un point. Je n'ai pas dit, hein, je ne prétends pas tout pratiquer dans ce que je enseigne. Alors, on va ramener le dalil, hein, pour ceux qui se disent comment ça, normalement, il doit tout pratiquer ce qu'il enseigne. On va ramener le dalil, inshallah, que le savant, le prêcheur, l'imam, tout ce que vous voulez, il n'est pas censé, c'est pas forcément qu'il va tout pratiquer ce qu'il enseigne. Je vais vous donner le dalil après. Rappelez-moi-le si je l'oublie. Mais là, comme vous le savez, il y a un point sur lequel j'attache une importance capitale. Et à chaque fois, vous remarquerez, soyez vigilants, vous remarquerez dans des différentes matières que souvent, le mot comportement y ressort. Dans le Coran, dans la Sunna, dans les cours, lorsqu'on parle de le Coran, il est descendu, la Sunna, elle est descendue, elle a commencé à parler de ceci, elle a commencé à parler de cela, forcément, ils vont vous dire, et également, ils ont parlé du comportement. C'est une case qu'on ne peut pas passer à côté. Le comportement, il est partie intégrante du Kitab et du Sunna. Donc ça, voilà, je voulais vous faire prêter attention à ça parce que c'est beaucoup négligé. Et alors, ça va dépendre en fonction de l'enseignant ou autre que vous avez en face de vous, par rapport au degré d'importance qu'il attachera au comportement. Mais je peux vous dire que les savants, ils passent pas à côté. Les grands savants, ils passent pas à côté. Je vous ai parlé d'une vidéo, d'un audio que je n'ai pas encore eu le temps de traduire de Cheikh Al-Husaymi. Cheikh Al-Husaymi, il va parler pendant peut-être près d'une dizaine de minutes. Moi, je vous fais un résumé en une phrase. Il est en train de dire qu'aujourd'hui, les étudiants ont aucun comportement. Ils ont pas de comportement, les étudiants. En 10 minutes, il explique ça. Que les étudiants n'ont pas de comportement. Donc ça, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Comment tu vas les former à quoi si tu n'as pas de comportement, tu vas les former à quoi les étudiants? Qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Et eux, ils vont transmettre quoi? Et après, ça se transmet. Mauvais comportement, on est, comment dirais-je, envers les autres, on est, pour pas dire hautain, mais quand on les méprise, on les prend de haut, c'est moi qui connais tout, etc. Beaucoup de choses comme ça. Des coups, la trahison. Alors, je ne dis pas que c'est dans l'absolu, mais... Et juste une petite faïda. Juste une petite faïda. Au passage. Alors, je ne serai pas... Mouhim, c'est pas grave, on va le dire quand même. Parce que c'est important de le dire, même à la Jamia, à l'université islamique en Arabie, vous n'apprendrez pas le comportement de cette manière, avec autant d'insistance que vous l'apprendrez chez certains prêcheurs qui insistent. Alors, c'est une réalité, c'est une réalité. Malheureusement, ils n'ont pas le temps d'étudier le comportement. Alors, c'est pas à l'itlaq dans l'absolu. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Wallahu a'lam. Donc, nous continuons. Wa fi hadhihi al-marhala. Donc, marhala. Donc, dans cette période à Mecca, à Médine plutôt, les jugements légiférés ont commencé à s'étendre, à apparaître. Là, les législations, les lois, tout ce qui concerne le fiqh, les usul, les fondements, le tawhid, ça a continué, ça n'a jamais. Alors attention à ne pas se tromper à penser que ce qu'on a dit précédemment, ça veut dire qu'il n'y a eu que 13 ans de tawhid et après il n'y a plus de tawhid. Il ne faut pas penser comme ça, ce n'est pas du tout le cas. Le tawhid, il a continué du début jusqu'à la mort du prophète, alayhi salat wa salam. Le tawhid, c'est 23 ans. Mais on dit que les 13 premières années, il n'y a eu que le tawhid. Mais ce n'est pas parce qu'après, il y a eu encore 10 années qu'il n'y a plus de tawhid. Hein? Pas du tout. Alors, à cette époque, les musulmans ont commencé à s'organiser par rapport aux lois qui descendent, kitab, wassunna, l'wahi, c'est-à-dire la révélation qui se répand, etc. Et c'est à ce moment-là que l'État musulman, pour la première fois, a commencer à se mettre en place l'État musulman, al-Dawla Islamiyya. Tamam? Wa tihtaj ila ma taqoum bihi min an-nizam wa tashri'a. Donc, cet État musulman, il a un besoin Quel est ce besoin? Il a ce besoin d'avoir une organisation, des jugements, des lois, qawanin, des limites concernant chaque personne qui faisant partie intégrante de l'État islamique. وبينها وبين غيرها من الأمم قد وضع الإسلام أول مرة في تاريخ العرب فكرة دولة. سبحان الله. Regardez ce qu'on nous dit. Alors, l'islam, les Arabes. L'islam et les Arabes. Ils sont comparés aux autres. Ils font partie des premiers peuples. Hein, qui ont فقد وضع الإسلام أول مرة. Donc concernant les Arabes, la première fois qu'ils ont mis en place un État, ça a été par le biais de l'islam. C'est-à-dire que la première fois, pour être plus précis, hein, que les Arabes ont mis en place un État, c'est à partir de l'islam. C'est à partir de l'islam. Et Inch'Allah ou Ta'ala, peut-être, si la situation nous le permet, il y a une matière, donc cette matière elle est enseignée à l'université faculté de législation, où il y a toutes les matières en même temps qui sont enseignées. Vous avez une matière qui est une matière que vous faites pendant une année, une matière qui est, il vous explique toute l'histoire de l'Arabie Saoudite. Alors, vous pensez bien qu'il y a une partie réservée à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Son histoire, elle est incroyable. Elle est incroyable. Toute l'histoire de l'Arabie Saoudite. Si vous voulez, un jour, on fera un petit cours. Il faudra que je sois très, très, très pointilleux à faire un petit résumé, un résumé d'un livre énorme, d'un livre que vous allez faire pendant peut-être une année, hein, avec les dates, etc. Pour que vous sachiez, un petit récit, l'Arabie, lorsqu'ils ont commencé à essayer d'instaurer une daoula, un État islamique, il faut savoir que le premier État islamique, dont la famille des Saoud, hein, la famille des Saoud, comme vous savez, c'est une longue lignée. Hein, la famille des Saoud, ce sont eux les premiers qui ont instauré un État islamique. Il faut savoir que le premier État islamique, il a été attaqué par l'Empire ottoman, qui était lui aussi un État islamique, mais en Turquie, le plus grand État islamique de l'époque. Donc, ils ont été attaqués par un émir qui s'appelait, et c'est bien parce que vous allez apprendre quelque chose, qui s'appelait Al-Bacha. Et en fait, c'est comme les Français lorsqu'ils disent le Pacha. Tu te prends pour le Pacha. Et en fait, c'était cet émir, le Bacha, en arabe, qui avait une énorme armée et il avait attaqué l'Arabie Saoudite et au début, il n'avait pas réussi. À la fin, il a réussi à faire tomber la première daoula, le premier État islamique. Ensuite, il y a un des descendants de Ali Saoud qui a réussi à refaire un deuxième État islamique. Et ils ont re-attaqué, il y a eu des assassinats, c'est incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui sont arabophones, ou je ne sais pas si ça existe en français, je vous conseillerais si vous voulez, je peux même vous envoyer en PDF des livres sur ça. Voilà, où il y a le détail. Donc, ce sont des petites favorites au passage. C'est bien de connaître ces choses-là. Alors, l'islam awal marra fi tarikh al-arab fikrat al-dawla wa ja'ala min al-wajib ta'at al-sultan. Donc, à ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé à faire une daoula, c'est-à-dire un État islamique, hein, le premier État islamique qui se met en place, c'est à ce moment-là que l'obligation est descendue l'obligation de l'obéissance au gouverneur. L'obéissance au gouverneur. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Rasul. Wa ulil amri minkum. » Tamam. Traduction rapprochée du sens du verset 1. « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager. » Au messager. Et au gouverneur, à ceux qui ont le, qui détiennent le pouvoir parmi vous. Tamam. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Wa man yuti' al-amir faqad ata'ani, ata'ani wa man ya'si al-amir faqad asani. Aw man asa al-amir. Tamam. Donc ensuite, vous avez un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez ce qu'on est en train d'expliquer là. Juste la partie, les gouverneurs, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Obéir au gouverneur. Attention, c'est très important. Je vous mentionne un hadith qui n'est pas ici dans notre ouvrage. On va mentionner tout de suite après le hadith qu'on nous mentionne concernant le fiqh ici. Mais d'abord, moi, je veux vous mentionner un hadith concernant le fait d'obéir au gouverneur. Un autre hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui tue un coopérant, il ne sentira pas l'odeur du paradis. » Et il y a des autres preuves de la sunna où celui qui sort sur le gouverneur il mourra d'une mort de l'époque de l'ignorance pré-islamique. Il y a des preuves sur cela. Donc, pour vous dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que c'est un fondement, que c'est très important dans les, pour ceux qui suivent la voie du prophète et de ses compagnons, c'est que le gouverneur, on ne sort pas sur le gouverneur. On ne sort pas, les gens de la sunna ne sortent pas sur le gouverneur parmi leurs caractéristiques, mais c'est le contraire. Les gens de la sunna, ils font des invocations pour le gouverneur pour qu'il se réforme si jamais il a des manquements, etc. Tamam. Kadhalika da'a al-Islam, il a jihad fi sabilillah. Et également, on nous dit donc, à ce moment-là, à Médine, l'Islam a appelé au combat dans le sentier d'Allah Ta'ala. Et l'islam, à ce moment-là, a également interdit tout acte de jahiliya. Jahiliya, c'est tout acte de ignorance ou de époque pré-islamique. Également, l'islam, hein, dans le sentier d'Allah, a autorisé, a permis la guerre de défense. La guerre de défense. Al-harb al-difa'iyya. Al-harb al-difa'iyya, c'est la guerre pour se défendre contre le mal, contre l'agression lorsqu'un pays est attaqué ou autre. Hein. Là, c'est une obligation de se défendre. On doit se défendre. Alors ensuite, nous passons à un autre sujet. Nous passons à un autre sujet, toujours dans le suivi de notre enseignement. On a un autre sujet. Ici, on nous dit le point suivant, masadir at-tashri'a fi 'asr an-nubuwa ou an-nabawi. Non. An-nubuwa. La source de la législation, c'est-à-dire des lois, tout ça, à l'époque prophétique, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc masdar at-tashri'a fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-wahy. Donc on sait que la source de la législation, les lois, le fiqh, tout ça, hein, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la révélation. C'est la révélation. La révélation, c'est-à-dire le kitab et la sunna. Le Qur'an et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, premièrement, on nous dit le Qur'an. Donc, forcément, hein, on ne peut pas passer à côté de certaines explications, certains approfondissements concernant le Coran, plutôt certains détails concernant le Coran, puisqu'il est le al-masdar, il est la source principale. Il est la source principale. Donc, premièrement, on nous dit al-Qur'an al-Karim, c'est-à-dire al-Qur'an, le noble Qur'an. Al-Qur'an, à la base, dans la langue arabe. Dans la langue arabe, le Qur'an, sa racine, elle vient du mot lecture, qira'a. Qira'a. Qui est pris d'un verbe au passé, fi'l madi, qara'a, yaqra'u qur'anan. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas de notion en arabe, qui n'ont aucune notion en arabe, ne focalisez pas sur ça, ça viendra, inshallah, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont certaines notions en arabe, sachez que dans la langue arabe, le mot qur'an vient de qira'a, plutôt, pardon, le fi'al madi. Oui, qira'a, c'est ce qu'on a dit, al-qira'a, en premier. Ensuite, concernant la conjugaison et la conjugaison, il vient du verbe au passé, fi'al madi, qui dit qara'a. Fi'al madi, qara'a. Yaqra'u, mudari', qur'anan, ou qira'atan. Donc, ça, c'est dans la langue arabe. Donc, plus précisément, un petit peu plus de détails, dans la langue arabe, le sens du mot Qur'an, ça veut dire al-jama', c'est-à-dire un assemblement. Un assemblement. C'est un assemblement. Donc, ce n'est pas mentionné ici, mais pour que vous compreniez un peu mieux, en réalité, c'est un assemblement de quoi ? C'est un assemblement de feuilles. Qui se réunit et qui donne un livre, qui donne le Qur'an. Wallahu a'lam. Alors également, nous avons une définition, si on peut appeler ça une définition. Si on vous dit c'est quoi le Qur'an ? Qu'est-ce que le Qur'an ? Les savants, comment ils ont expliqué le Qur'an ? Entre parenthèses, la définition du Qur'an. Alors le Qur'an, retenez bien, le Qur'an, c'est le livre d'Allah. Mu'ajaz, c'est-à-dire miraculeux, c'est le livre d'Allah, miraculeux, celui qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, descendu par Allah bien entendu, qui a été transmis par une transmission multiple, hein. Allah Ta'ala le transmet à Jibril, qui le transmet au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que cette chaîne de transmission, elle est considérée comme infaillible et c'est une référence. Contrairement à d'autres chaînes de transmission qui ne sont pas forcément fiables ou il peut y avoir des failles, dans cette chaîne de transmission, il n'y a aucune faille, elle est parfaite. Al-Muta'abbad bitilawatihi, également le Qur'an qui est celui que l'on, avec lequel on adore Allah subhanahu wa ta'ala par sa lecture. Toujours dans la définition, le Qur'an, ce Qur'an qui commence par Sourate al-Fatiha et qui se termine par Sourate an-Nas. Donc, Inch'Allah wa ta'ala, nous allons nous contenter de ça ici. Hein? Pour ce cours d'aujourd'hui, et Inch'Allah Ta'ala, on vous donne rendez-vous dans le prochain cours de Fiqh. Donc, rendez-vous pour ceux qui suivent l'aqida, le dogme, la croyance, dans une, Inch'Allah Ta'ala, dans une vingtaine de minutes. On va prendre rapidement 5 minutes pour ceux qui ont des questions. Inch'Allah Ta'ala. Et s'il n'y a pas de questions, nous passerons, terminerons Secours, assalamu alaykoum. Avez-vous un livre en français à recommander pour l'évolution du chaud? En français. Je ne suis pas spécialiste, connaisseur des livres en français. Écoutez, nous allons nous renseigner, inshallah ta'ala, concernant les ouvrages en français. Je vais vérifier. Je n'en connais pas, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Hein. S'il y a des livres en français, c'est bien pour vous. Parce que rien ne vous empêche à côté d'acheter un gros livre, ou pour ceux qui veulent vraiment aller loin dans les études, d'acheter un gros livre, et à vos heures perdues, d'entrer dans le détail. C'est ce que recommandent hein, d'ailleurs les enseignants. J'ai une question, allez-y. Quand on a un cours comme pour aujourd'hui, est-ce que c'est l'heure de la prière? Dois-je faire ma prière? Oui. Alors, il faut savoir, ça va dépendre. Je vais regarder après les frères. Nous allons, inshallah wa ta'ala, regarder après. Je crois qu'il y a des questions des frères. En fait, concernant la salat, ça dépend. Ça dépend quelle salat. Et ça dépend parce que la prière, il y a plusieurs temps dans la prière. C'est pas, par exemple, parce que quelqu'un n'a pas fait la prière juste quand il y a eu l'Aden, qu'il a loupé, que ça y est, il est sorti de l'heure de la prière, que ça y est, sa prière n'est pas acceptée. L'heure de la prière, si vous préférez, la limite de la prière, elle a plusieurs temps. Si vous préférez, là où c'est grave, c'est si vous n'avez pas fait, par exemple, le dhuhr avant d'entrer dans l'asr. Lorsque vous êtes entré dans l'asr et vous n'avez pas une excuse légiférée, là, c'est très grave. Il y a divergence entre les savants, il y a des savants qui disent ne la refaites pas, il faut faire taouba, c'est même pas la peine de la refaire, wallahu a'lam. Dans notre cas à nous, si par exemple ça va vous faire sortir de l'heure limite de la prière, vous ne me demandez même pas, vous laissez votre ordinateur par exemple allumé, vous partez pas. Et vous allez faire votre prière, puis vous revenez. Il n'y a aucun souci. La prière, elle passe avant le cours. Mais si, par exemple, quelqu'un, il doit prier l'Isha, c'est un peu plus vaste. Tu peux terminer ton cours, par exemple, attendre de terminer le cours et faire salat l'Isha. Également, les savants disent qu'on peut retarder la prière lorsqu'on est en train d'écouter un cours, mais pas de la retarder à la limite de son heure. Attention, ça va. Donc, on espère avoir répondu. En tout cas, moi, c'est pas la peine de me demander. Celui qui doit faire sa prière, il fait sa prière. Wafikum barakallah. D'accord, les frères. Maintenant, on va regarder les frères. Tamam. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh pour l'anecdote que vous avez donnée sur les récipients, car le masaïd qui sont propres au tawahid, à l'aqida, et le masaïd qui sont propres au fiqh, c'est totalement différent, c'est deux choses qui sont différentes dans le sens que le tawahid, ceux-là sont assimilables, il faut accepter, il faut y croire, car c'est dans le Coran, alors que dans le fiqh, le fait de concevoir, le fait de comprendre les masaïd du fiqh, ce n'est pas si clair, naham, car il faut bien comprendre les masaïd, d'une part à l'étudier pour pas que cela ne se mélange, pour l'autre part, Masaïd, petite faïda que je voulais faire partager, qu'Allah vous préserve, barakallahu fik, amin, wa yak ya akhi al-aziz, akhi Abdallah Karim. Les élèves de l'imam Malik disaient que l'imam Malik leur apprenait le comportement avant la silence, est-ce vrai? Oui c'est vrai, parce que la propre mère de l'imam Malik, la première fois qu'il est parti étudier, lui a dit, prends le comportement du shaykh avant de prendre sa science. Donc il n'est pas étonnant que l'imam Malik ait reproduit cela. La mère de l'imam Malik, qu'Allah en fasse mes épaules, lui disait, va voir, mashallah, barakallahu fik Mohamed, hayakallah. Et apprend ses bons comportements avant sa science. Et mon frère, il avait déjà reproduit, je n'avais pas vu. Définition du Coran, c'est la parole miraculeuse d'Allah envoyée au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la récitation et un acte d'adoration recensé entre les deux reliures du Mushaf qui nous est parvenu par le biais du mode Tawattur Ahsant, dont les Arabes ont été mis au défi de reproduire ne serait-ce que la plus courte des sourates. Masha'Allah. Très bonne définition. En français, je ne sais pas où tu l'as trouvé, Akhi Mohamed, mais c'est bien, ouais, si tu fais partager. Très très bien, Akhi. At-tawattur, c'est la transmission à grande échelle d'une information génération après génération, du premier au dernier maillon de cette chaîne, de manière à ce qu'il soit impossible que personne s'accorde sur un mensonge. Attention, par contre, attention au tawatur. Attention. Le tawatur que tu as mentionné, Akhi, là, c'est le tawatur concernant ilmul hadith. Mais là, on a parlé du tawatur concernant le Coran. Et le Coran, ce n'est pas le même tawatur. Tayyib. Naham, alors, on n'a plus rien pour les frères. D'accord. Barakallahu fikum wa hayakum Allah. J'ai oublié personne. Pouvez-vous nous expliquer pour... Tamam. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous nous expliquer pour les dirigeants et la position des gens de la sunna? Tayyib. La position des gens de la sunna, c'est la position des compagnons et c'est la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la position ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la sunna. C'est-à-dire que la méthodologie des gens de la sunna, c'est obéir au gouverneur musulman et indirectement au gouverneur mécréant. On va expliquer ça, c'est plus... Il y a un détail dans ça. Mais attention, c'est pas dans l'absolu. On doit leur obéir dans l'obéissance à Allah Ta'ala. Mais on ne doit pas leur obéir dans la désobéissance à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si un gouverneur, quel qu'il soit, demain il fait une loi, la prière c'est interdit, vous n'avez plus le droit de prier, est-ce qu'on va arrêter de prier? On ne va pas lui obéir, on continuera à prier. C'est un exemple. Donc c'est très, 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 très grave dans notre religion de sortir sur le gouverneur. Qu'est-ce que les savants veulent dire par sortir? Juste parler, critiquer un gouverneur musulman, ça s'appelle sortir. Alors vous avez sortir avec la langue et vous avez sortir avec les membres. Avec les membres, comme vous le savez, c'est aller combattre un gouverneur musulman. Donc voilà, ça c'est un peu en général. Concernant ce sujet, il y a un long, long, long et gros détail. Inch'Allah Ta'ala. Avec le frère Taïeb, on va essayer de vous envoyer sur ce sujet des audios que j'ai pu faire où j'ai détaillé cette mas'ala. Ça sera mieux, Inch'Allah. Là, je vous en parle en général. Mais pour détailler, il faut un cours ou des cours. Donc, on va rechercher où j'ai déjà fait des cours. Par exemple, une sœur m'expliquait qu'elle était réticente à l'idée de faire Hijra au Maroc par rapport au roi du Maroc et du fait qu'il ne soit pas sur la Sunna. Alors là, quand on parle d'un gouverneur, on ne parle pas du fait qu'il soit sur la Sunna ou pas, on parle du fait qu'il soit musulman ou pas musulman. Si tu as à choisir entre le roi du Maroc et Macron, le grand ennemi de l'islam, donc je parle pour cette sœur, je ne parle pas pour l'étudiante qui nous pose la question à l'institut, mais pour la sœur qui a cette pour la sœur qui a cette ambiguïté. Si tu as à choisir entre le roi du Maroc qui est musulman, les savants disent, retenez bien ça, c'est une règle dans les usul, dans les fondements de la religion. Man dakhala fil islam bi yaqin, la yakhruju min al islam illa bi yaqin. Celui qui entre dans l'islam avec certitude, quand il est rentré dans l'islam, il est rentré avec certitude. On sait que c'est un musulman. On ne pourra pas le sortir de l'islam qu'avec certitude. Tamam. Donc, cette sœur, c'est simple pour lui répondre. On va encore partir de la règle du moindre mal. Il y a des pays musulmans, c'est vrai, c'est un peu difficile, ils ont des choses. Il y a beaucoup de pays, aujourd'hui, c'est du soufisme. Ils combattent les gens de la sunna dans le Maghreb. Même les savants sont interdits de dolos, etc. Mais franchement, moi j'ai une petite expérience du Maghreb, en tout cas pour l'Algérie et le Maroc. C'est même pas. D'ailleurs, je vais vous dire une parole de Cheikh Al-Albani comme ça. Comme ça, ça va remettre. C'est une bonne faïda. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit: il n'est pas permis de comparer un pays musulman à un pays mécréant. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit: il n'est pas permis de comparer un pays musulman à un pays mécréant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays. Cheikh Al-Albani, il a dit. Ne serait-ce, il disait à l'époque, hein, je me souviens, il disait le pays musulman, subhanallah, ne serait-ce que juste assalamu alaikum wa alaikum salam, les hasanettes que tu gagnes, c'est, ça vaut tout par rapport au fait de rester en France. Donc, non, ça c'est une shubuhat du shaitan. C'est une shubuhat, il faut faire attention. Le shaitan, quand vous allez pour aller faire cette grande œuvre, la hijra, attention, c'est une grande œuvre. Il viendra avec ses choubouettes. Hein. Moi, je me souviens même quand on était étudiant, il y a des étudiants chez Cheikh Mokbal à l'époque. Shaitan, il leur a fait des gros coups. Hein. Je dois rentrer en France, je dois faire ça, je dois aller faire ça. Le Cheikh, il lui dit, bon, tu as le droit de partir et d'aller faire... Il posait la question au Cheikh. Le Cheikh lui dit, d'accord, mais tu dois revenir. Tu dois revenir étudier. Tu n'abandonnes pas comme ça, tu pars pour X raisons. T'as le droit, la question que t'as posée, je vais aller voir ma mère ou je vais aller faire la hajj, t'as le droit, mais tu dois revenir. Ils reviennent plus après. Il y en a, ils sont plus revenus, on les a jamais vus. Vous voyez le shaitan, comment il vous a... Il va passer par un bien pour vous égarer. Par exemple, une sœur m'expliquait qu'elle était réticente à l'idée de faire la hijra au Maroc par rapport au roi du Maroc et du fait qu'il ne soit pas sur la sunna. Mais quand tu fais la hijra, tu fais pas la hijra pour le gouverneur... particulièrement pour le gouverneur. Tu ne le verras même pas, le gouverneur. Le roi, comment tu... C'est rare, quelqu'un qui voit... Tu ne le verras même pas, le roi. Tu ne le verras même pas. Et à ma connaissance, au Maroc, les gens, ils ont l'air d'être bien. Après, il faut supporter... C'est comme l'Algérie, il faut supporter la mentalité maghrébine. Je ne pense pas que ce soit pire au Maroc que l'Algérie. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. En tout cas, j'espère avoir répondu. Barakallahu fikoum. Tayeb, il n'y a pas de questions? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyak ya akhi al-aziz, akhi al-habib. Je ne peux rien dire à part une seule chose. Je ne peux pas interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. Il est vrai que lorsqu'on a eu des cours à la Jamia, dans certains cours, on a eu le même problème. Alors, on a eu des docteurs à la Jamia qui vous disaient « Vous pouvez faire votre salat après, vous avez le temps. » Et on avait d'autres qui vous diront « La salat, c'est la salat. » On a bien, par exemple, vous avez bien des professeurs à la Jamia qui normalement commencent à 13h leur cours, ils finissent à 14h, c'est un exemple, et eh ben, il dit aux élèves, j'arriverai à 14h20, à 14h10, parce que c'est, chez nous, c'est la rassa. Donc, personnellement, Harry, si tu as la position, parce qu'il y a une divergence sur ça, mais si tu as la position que la salat à la mosquée, elle est obligatoire, et ben, va à la mosquée, Harry, et gagne la multiplication de 27 fois mieux la salat à la mosquée qu'à la maison. Et puis, alhamdoulilah, les cours sont enregistrés. Et puis voilà. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc, voilà pour les questions. تمام بارك الله فيكم والسلام عليكم وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم